Voilà, voilà, donc on est arrivé, c'est déjà bien, au sixième chapitre du livre des Actes, avec cette petite péricope pas très longue, que j'avais intitulée « La bande des sept » ou « L'institution d'une diaconie ». Alors, peut-être quand même en introduction à l'étude de ce passage, le situer un tout petit peu dans tout ce qu'on a déjà survolé. Donc on est face à une église dynamique, en tout cas une nouvelle forme de judaïsme dynamique à Jérusalem, et essentiellement à Jérusalem. Et cette section, qui commence par ces sept versets, introduit finalement le personnage d'Étienne, dont il sera longuement question jusqu'à la fin du chapitre 7, même jusqu'à 8.3 pour être précis. Et c'est principalement là-dessus que ce chapitre va nous focaliser. Et on découvrira donc au fil du texte jusqu'au chapitre 8 le personnage, son ministère, ses services, son zèle et aussi son martyre qui va conduire plus tard Saul de Tarse à la conversion. Donc sans le martyr d'Étienne, on peut se demander si Saul serait devenu Paul, quoi, en gros. D'autant qu'il était plutôt pharisien de pharisiens et assez opposé finalement à la nouvelle voie. En même temps, on va constater avec cette péricope ici que l'étau de la persécution se resserre dangereusement sur les Juifs, notamment sur ceux qui sont acquis à cette nouvelle voie du judaïsme, la voie messianique du judaïsme. Voilà, voilà un petit peu pour planter le décor.
L'éteindre, excusez-moi, mais...
C'est pas grave, hein, si...
Okay.
Moi, ça ne me dérange pas.
Non, mais maintenant, c'est fini. C'est terminé.
T'as décidé.
On a oublié de dire qu'on était enregistré.
Oui, donc on est enregistré, effectivement. Voilà, donc je propose qu'on fasse la lecture de ces sept versets, c'est pas très long. Si quelqu'un veut le faire, au chapitre 6, versets 1 à 7.
Je veux bien.
Ok, merci.
En ces jours-là, le nombre des disciples augmentait et les hellénistes se mirent à récriminer contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient oubliées dans le service quotidien. Les douze convoquèrent alors l'assemblée plénière des disciples et dirent : Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour le service des tables. Cherchez plutôt parmi vous, frères, cet homme de bonne réputation, rempli d'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cette fonction. Quant à nous, nous continuerons à assurer la prière et le service de la parole. Cette proposition fut agréée par toute l'assemblée. On choisit Étienne, un homme plein de foi et d'esprit saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. On les présenta aux apôtres, on pria et on leur imposa les mains. La parole de Dieu croissait et le nombre des disciples augmentait considérablement à Jérusalem. Une multitude de prêtres obéissait à la foi.
Ok. Alors, on va commencer par le tout début. Peut-être avant d'essayer de répondre à la question 1, si certains y ont travaillé, juste dire qu'on est de nouveau dans cette péricope devant une notion de durée, de temps qui s'écoule, puisque ça commence par ces fameux mots « en ces jours-là ». Qui montre donc qu'entre chaque péricope, il y a du temps qui s'est écoulé, peut-être quelques heures, peut-être quelques jours, mais ici on parle de jours, donc on sait qu'il y a eu au moins quelques jours au pluriel qui se sont écoulés et qu'un des résultats de la péricope précédente, c'est que de nouveau, l'Église a vu augmenter son nombre de disciples. Et ça va nous permettre de comprendre d'ailleurs la suite du texte. Voilà. Donc, est-ce que quelqu'un peut résumer en quelques mots le problème rencontré à l'église de Jérusalem ?
Problème d'organisation.
Alors, oui, on pourrait appeler ça comme ça. Quoi exactement ?
Le favoritisme, peut-être.
Mise à l'écart de certaines personnes.
Oui, on peut imaginer, mais...
C'est ce que tu viens de dire. Il y a augmentation des disciples et la croissance de la parole, donc il faut se réorganiser autrement.
Ok, chose que, apparemment, le groupe n'avait pas spécialement prévue. Ce n'est pas quelque chose auquel on avait réfléchi. Mais il faut dire que la notion de conversion... Comme ce n'est pas quelque chose qui est quantifié, qui est recherché, mais que c'est l'action de l'esprit, ben oui, il y a toute une série de personnes qui se joignent au groupe au fur et à mesure. Et là, on a dépassé sans doute les 5000 personnes hein, sur Jérusalem. On en est peut-être au double, peu importe. Et se pose alors un vrai problème d'organisation, mais plus particulièrement...
Mais qu'est-ce que ça veut dire, quoi que... Leur veuve était oubliée dans le service quotidien. C'est quoi le service quotidien ?
Voilà.
Oui, mais c'est une bonne question. Donc déjà, on a une indication, c'est que c'était un service qui avait lieu chaque jour. Mm-hmm. Et un petit peu plus loin, on découvre quoi ? Quand les apôtres argumentent, ils disent quoi finalement ?
Il ne convient pas qu'on délaisse les... Mais, la parole de Dieu pour servir au
table. Alors, on sait donc qu'il faut associer service des tables avec le quotidien. Mm-hmm. Et donc, ceux qui sont... Enfin, les veuves qui sont négligées... Hein, en fait, en grec, c'est négligé, hein, c'est pas autre chose. Les veuves qui sont négligées dans ce service sont celles qui appartiennent au groupe dit des hellénistes. Mm-hmm. Alors nous, évidemment, quand on lit le texte comme ça, ben, c'est quoi les hellénistes, c'est quoi les hébreux, etc. Bon... On se pose quand même des questions, et comme on a l'habitude de lire très rapidement les textes et d'être satisfait et pas trop curieux, ben on ne pige pas grand-chose à ce qui se passe en réalité dans cette affaire. Mais le fil conducteur, c'est ce que tu dis Anne-Marie, c'est la croissance numérique qui va poser problème, notamment à un de ces deux groupes. Et je ne sais plus si je l'avais demandé. Oui, je demandais dans la première question, peut-on parler ici d'un conflit interne ? Ça pourrait, oui. Parce que disons qu'il y a le constat, il y a un constat externe de quelque chose qui ne fonctionne pas. Et ça se transforme en une sorte de plainte, on va dire. Le grec utilise le mot murmure. Murmure, ça peut être aussi ronchonnement en grec. Hein, donc voilà. Donc en tout cas, quelque chose qui n'est pas plaisant et qui dénonce une situation de fait. Qui est là et qui perdure dans le temps. Alors, là où on pourrait se tromper dans la lecture, c'est de croire qu'il y a une discrimination volontaire.
C'est-à-dire femme.
Non. C'est-à-dire on pourrait croire qu'entre ceux qui sont appelés les hellénistes et les hébreux, il y ait une discrimination de la part des hébreux. D'accord ? Et là, on se tromperait de lecture, mais on y reviendra dans un moment.
Oui, mais une chose aussi, on parle uniquement de l'âme, de veuve.
Oui, on parle, si tu veux, dans le service aux tables, sont compris tous les pauvres. Mais une grande partie de ces pauvres étaient des veuves. C'est-à-dire des gens qui n'ont plus de famille, femmes qui n'ont plus de famille, et qui dépendent de l'aumône pour survivre, finalement, dans une société où, normalement, l'entraide est familiale.
D'accord.
Donc c'est la famille au sens élargi qui doit subvenir... aux besoins des veuves, des orphelins, et voire même de l'étranger, d'ailleurs. Hein, d'accord ? Et donc, ici, ce qui se pose, c'est qu'il y a des veuves qui sont sans famille. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Donc, on sait que le nombre de disciples avait augmenté considérablement. Un succès de l'Évangile, hein, qui ne tarit pas. Et pour la première fois, dans les Actes, on va nommer ce groupe en augmentation par le qualificatif de « disciples ». Donc c'est les chrétiens entre eux qui se désignent comme étant des disciples de Yeshua, bien entendu. Et c'est la première fois donc que ce terme apparaît dans les Actes pour parler des membres de la communauté de Jérusalem. Luc les avait déjà appelés, alors rappelez-vous, chapitre 1, verset 15, frères, puis il les a appelés au chapitre 2, croyants. Il donne maintenant le nom de disciples, et au chapitre 9, il va parler de la voie, donc le groupement hein, de gens qui suivent Jésus. Au chapitre 9, toujours, il va les appeler les saints, et puis enfin, mais à cause d'un fait historique, au chapitre 11, on va les appeler chrétiens. D'accord ? Voilà, donc la première fois que le mot chrétien sortira, c'est à ce chapitre-là, et nous en sommes encore un peu loin. Donc, voilà un petit peu le... Alors maintenant, parmi ces disciples nombreux, nous dit le texte, il y a deux groupes. Les Hébreux, qui sont majoritaires, et les hellénistes, qui sont minoritaires. Mais je reviens là-dessus dans un moment. Donc, les Actes parlent de ces deux groupes. Et d'après ce témoignage, on retrouvait donc à l'intérieur de la communauté de Jérusalem les mêmes clivages qui existaient dans le judaïsme de la capitale. Donc, sans parler d'Église, il y avait déjà ce problème de ces deux groupes. Donc, ce n'est pas un problème inhérent à l'Église. C'est un problème inhérent à la société juive, et notamment à Jérusalem précisément. Dans les deux cas, il s'agit bien de juifs, de même confession, mais comment peut-on alors les distinguer? Alors, les commentaires vont bon train. On dit, on peut les distinguer par le lieu de naissance. Certains sont nés en Palestine, en territoire d'Israël, et d'autres sont nés dans la diaspora, dans les pays de la dispersion, si vous voulez, et cela par le grec, d'office. Parce que dans tout le bassin méditerranéen, on parle grec, ok? Ça peut être une explication. On dit aussi que c'est la langue maternelle qui détermine plutôt. Donc il y aurait des gens qui seraient hellénistes tout en étant nés en Palestine, parce que de parents qui sont issus de la diaspora, etc. Donc la langue maternelle ou usuelle, c'est soit le grec ou l'araméen. Si on est de Palestine, c'est plutôt l'araméen. Ceci tient plus ou moins la route, on verra pourquoi tout à l'heure. Et puis d'autres disent, ben non, en fait, la différence entre hellénistes et hébreux, c'est que les hellénistes sont plutôt d'un judaïsme libéral, alors que les autres sont plutôt orthodoxes, hein, plutôt plus carrés, plus rigoureux. Il y a un tout petit peu de vrai derrière tout ça. Néanmoins, ce n'est pas une simple réalité. Ce n'est pas aussi simple que cela.
Il n'y a pas aussi certains qui lisent la Bible en hébreu.
Alors, effectivement. Donc, il y a ceux qui ont accès au grec, parce qu'ils sont de la diaspora, et qu'ils ne connaissent que la Bible grecque, vous voyez, l'Ancien Testament en grec et pas en hébreu. D'ailleurs, la plupart de ceux qui étaient araméens ne touchaient pas plus leur bille en hébreu concernant la Bible. Hein, c'est très similaire, l'hébreu et l'araméen, il y a quand même de grosses différences. Donc, ce n'est pas aussi simple. En effet, la plupart des juifs de Palestine, je dis bien de Palestine, sont bilingues. Donc ils comprennent le grec et ils utilisent le grec pour tout ce qui est administratif, économique et le commerce, notamment à l'étranger. Donc la plupart sont bilingues et c'est la langue la plus utilisée à Jérusalem, pèlerinage oblige. Donc nécessairement, si c'est un lieu de pèlerinage qui regroupe tous les juifs du monde, notamment de la diaspora, nécessairement qu'il faut parler grec à Jérusalem, sinon... Ben, ils n'arriveraient pas à vendre leurs moutons, leurs bœufs, leurs tourterelles. Ils ne pourraient pas échanger du pognon parce qu'ils ne comprendraient rien. Donc nécessairement, c'est une langue couramment parlée. Donc le vrai problème n'est pas là derrière. Ce n'est pas le fait qu'on serait de langue grecque ou de langue araméenne qui pose problème. Donc, entre autres, il n'est pas rare que les Hébreux, donc ceux qu'on appelle les Hébreux, portent un nom ou un surnom grec. Ça noie finalement le poisson. Et on le sait par les inscriptions qu'on a retrouvées sur les tombes à Jérusalem. Beaucoup de tombes portent le nom à la fois araméen et grec de la personne. Et parmi les apôtres, ne serait-ce que là, dans ce petit groupe des 12, deux ont un nom grec. André et Philippe. Ce n'est pas des noms du tout araméens. Donc ils sont sans doute eux, de parents issus de la diaspora, ils ont été appelés avec un prénom grec, mais ils vivent en Palestine, etc. Donc la meilleure explication qu'on puisse donner à ce sujet, de cette différence entre hellénistes et hébreux, tient plutôt à la provenance de chacun. C'est-à-dire, les hellénistes sont des juifs de la diaspora. Alors, à une ou deux générations, on n'en sait rien, mais vraisemblablement à la deuxième génération, de juifs issus de la diaspora, et qui se sont réinstallés définitivement à Jérusalem, ou en Palestine, hein, au sens plus large.
Pourquoi est-ce qu'ils étaient partis
Alors, il y a eu plusieurs déportations sous les Romains, une en 63 avant Jésus, c'est pour ça que je dis qu'on peut parler de la deuxième ou troisième génération, hein, de ces juifs qu'on appelle hellénistes, qui ont été emmenés du côté de Rome et qui ont été affranchis par la suite. D'ailleurs, on verra plus tard dans le texte qu'il existe des synagogues uniquement pour les affranchis, pour ceux qui sont sortis de l'esclavage et qui ne parlent pas araméen, qui ne savent pas leur langue, ils ne connaissent pas l'hébreu, etc. Donc, ça tient plutôt à la provenance. Les hellénistes sont des juifs de la diaspora, à quelques générations, hein, une ou deux, on ne va pas se battre là-dessus, en opposition aux Hébreux qui, eux, sont des Juifs natifs de Palestine, et notamment pour Jérusalem, de Jérusalem. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on retrouve cette idée qu'il y a des synagogues spécialisées pour étrangers. On trouve ça dans notre chapitre 6, au verset 9, entre autres, où on nous parle d'une synagogue dite des affranchis.
Ah oui,
d'accord ? Ce qui revient à dire qu'ils étaient composés de Juifs affranchis de l'esclavage, provenant, et là on nous le dit dans ce verset, de Libye, d'Égypte, de Cilicie, c'est-à-dire la patrie de Saul de Tarse, d'Asie, sous-entendu la Turquie actuelle. Donc, beaucoup d'étrangers vivaient à Jérusalem, même s'ils sont minoritaires par rapport au groupe des Hébreux. Et alors on nous le dit, voilà, ben, au bout d'un moment, en ces jours-là, patati patata, il y a un murmure. Le texte grec dit « il advint un murmure », comme si tout d'un coup un constat est fait. Il y a un problème. Il y a donc un murmure. Vous noterez qu'en grec, c'est au singulier. Alors qu'on ne sait pas trop dans les versions françaises, ça peut être au pluriel. Ou alors on parle du verbe « récriminer », qui est déjà plus fort que « murmure », entre nous soit dit, peu importe. En tout cas, ce qu'on pourrait, là où on pourrait s'accorder tous ensemble... Alors, c'est vrai, un murmure, c'est presque rien, mais ça peut devenir grave. On est d'accord ? Mais c'est un, surtout qu'ici, il s'agit d'un murmure de mécontentement. Donc, il y a déjà quelque chose qui est un peu grippé. On pourrait en tout cas assimiler cela à un début de plainte. Il y a à la fois un constat qui provoque ce murmure, et ce murmure est assez important que pour être remonté vers les apôtres, hein. Puisque c'est eux qui, tout d'un coup, vont prendre les rênes de ce problème. Donc, une sorte de ronchonnement. Il ne s'agit pas d'un conflit, mais c'est vrai que ça pourrait le devenir à plus ou moins long terme. Et la suite du texte nous livre alors la cause de ce murmure, car jusque-là, on n'en sait pas trop. Hein, on ne peut pas trop se positionner. Mais le texte dit « parce que leur veuve, sous-entendu helléniste, était oublié dans le service quotidien. » En grec, c'est « était négligé ». Alors, la négligence, vous le savez, c'est pas nécessairement quelque chose de volontaire. C'est plutôt une faute non intentionnelle, si vous voulez. Mais on va essayer de comprendre pourquoi c'est le cas. Parce qu'on est quand même, il faut bien le dire, devant une église plutôt rayonnante, qui jusque-là fait un parcours un sans faute, hein, au niveau de l'entraide, de l'amour du prochain, etc. Et donc là, on est un petit peu choqué. On se dit, mais enfin, pourquoi il y a un problème ? Est-ce qu'il y aurait de la discrimination dans l'air ? Est-ce que les Hébreux seraient plutôt contre les Juifs d'origine des pays de la diaspora, etc. ? Non. C'est plutôt une négligence redondante, puisqu'on nous parle de jours qui s'écoulent et de services quotidiens. Donc, on constate au jour le jour qu'il y a un problème de mal gestion, de mauvaise gestion, de ce qui caractérise l'entraide sociale à Jérusalem. et il faut essayer de comprendre. Hein. Donc, plutôt un constat oral. Alors, on sait par la lecture du texte qu'on a fait qu'il s'agit essentiellement des veuves. Le vrai problème, c'est les veuves de ce groupe des hellénistes. Or, nous savons, enfin nous savons, nous devrions savoir, la connaissance de l'écriture aidant, que prendre soin des veuves est un devoir primordial en Israël. C'est incontournable. Alors, vous savez, c'est le même refrain, veuve, orphelin, étranger. Ça va toujours de pair. Et tout ça, vous le trouverez dans de nombreux chapitres du Deutéronome. Donc le Deutéronome insiste régulièrement, chapitre 10, chapitre 14, chapitre 22, chapitre 24, etc., 27, sur l'importance, même le côté, je dirais presque devoir sacré, de ne pas laisser de côté les plus démunis, et en particulier les veuves. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, si une femme se retrouvait sans aucun secours familial, alors elle n'avait que le choix de la prostitution pour survivre. Et donc pour éviter ça dans le pays d'Israël, eh bien, avait été mis en place dès l'origine du peuple, dès l'origine de la nation, d'un système d'entraide sophistiqué qui fait qu'aucune veuve ne pouvait être laissée pour compte, ni les orphelins, etc. D'ailleurs, vous trouverez dans les prophètes, si vous relisez un petit peu le mot « veuve » dans tous les prophètes, la critique des prophètes chaque fois qu'Israël est tenté d'abandonner la demande du Deutéronome et de spolier les veuves, les orphelins et les étrangers. D'accord ?
Et en fait, les veuves, oui, il y en avait qui avaient plus de chance que d'autres.
Oui.
Celles dont les maris avaient des frères, célibataires,
oui.
Elles étaient remariées par
elles
des
étaient
frères.
Remariées, effectivement.
Mais si tu marines avec des sœurs...
Ok, et si tu avais... Ouais, si tu étais veuve avec un patrimoine familial important, tu pouvais t'en sortir sur le long terme. Mais donc, celles qui sont touchées par le problème, c'est vraiment les veuves complètement isolées, sans famille et sans patrimoine, et qui ne peuvent compter que sur l'aumône. Alors, parlons de la société juive. C'est donc le cas dans la société juive, c'est pas l'Église. Hein. Mais le problème se retrouve dans le cadre de l'Église, à cause des conversions multiples, etc. Donc, l'idée de prendre soin des veuves fait partie d'un devoir sacré à respecter en Israël. C'est ça qui est important. Ce qui n'était pas le cas des cultures païennes. Donc c'est vraiment, dans tout le bassin méditerranéen, c'est presque une exception en Israël, sur le territoire d'Israël, que les veuves soient totalement prises en compte. Donc c'est une pratique courante du judaïsme qui, a fortiori, se retrouve dans la communauté naissante des frères en Christ. Alors se pose la vraie question, comment expliquer, ou plutôt comment comprendre ce problème, le problème qui se pose à la communauté chrétienne de Jérusalem, communauté si parfaite.
Ils sont dépassés.
Alors, première chose, dépassés par le nombre, effectivement. Ça, c'est le premier grand constat qu'on peut faire à partir du texte. Croissance numérique constante et importante en peu de temps. On parle ici de quelques mois, d'accord ? On est passé du bricolage du début à quelque chose qui devient une entreprise sociale. Donc, parallèlement à la prédication de la parole, l'évangélisation, la vie de prière, etc., l'enseignement public ou dans les maisons, ben, il y a un vrai problème de pauvreté, je vous l'avais déjà dit, à Jérusalem, particulièrement dans ce groupe par rapport aux veuves. Deuxième constat, je pense qu'il peut expliquer, c'est cette pauvreté endémique, bien entendu, qui fait que beaucoup de nouveaux disciples arrivant dans le mouvement ne peuvent compter que sur l'entraide de l'Église. Parce que si tu te déclares suivant Yeshua, ben, tu es mis plus ou moins sur le côté par la société juive, d'accord ? Notamment ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont le pognon, etc. Donc, on peut comprendre que ça pose un vrai problème économique pour l'Église naissante. Autre chose qu'on ne nous dit pas dans le texte, mais qui est une réalité historique, c'est le fait que pour les juifs pieux de l'étranger qui vivaient en diaspora, il était comme une vertu de finir ses jours en Israël. Donc quand on savait qu'on avait vécu, qu'on était sur la fin de sa vie, on retournait sur le territoire d'Israël, particulièrement à Jérusalem, afin d'y finir ses jours et d'y être enterré. Ça va même plus loin, puisque certains rabbins enseignaient un truc assez tarabiscoté, que finalement, la résurrection, ça se passerait plutôt en Palestine. Donc on n'avait pas trop intérêt à être à l'étranger au moment de la résurrection. Bon, hein, bref. Alors, c'était une histoire d'argent, à mon avis, on les faisait venir, etc. Donc, comme vous le savez aussi, il y a une autre réalité. Si on vient finir sa vie en famille, un couple en Israël, comme les femmes vivent plus longtemps que les hommes, en général, le problème, c'est que les femmes se retrouvaient seules à un moment, sans la famille qui est toujours dans la diaspora, et sans famille en Israël, on n'était plus que toute seule à devoir gérer son devenir. Donc, sans patrimoine, il n'y avait que la possibilité de recourir à l'aumône. Or, il y avait un fort taux de veuves, justement, dans les veuves de la diaspora. Puisque ces gens étaient venus finir leur vie là. Donc les veuves, ben, il y en avait plus que nécessaire, on va dire. Plus particulièrement à Jérusalem, la ville sainte par excellence, hein, puisque c'est là qu'on souhaite rester, demeurer proche de Dieu, proche du temple, et proche de la résurrection pour certains. Alors, facteur suivant, c'est le nombre disproportionné de ces veuves juives issues de l'étranger et qui vivent à Jérusalem. Ça finit par poser un problème social assez insoluble. Il n'y a pas assez de synagogues de juifs, si vous voulez, de l'étranger, pas assez de moyens non plus pour subvenir aux besoins de ces veuves. Donc là, je pars d'abord du cercle juif, hein. Donc même, sans parler d'église, le nombre de synagogues pour étrangers était si peu nombreux à Jérusalem que du coup, comment se faire accepter dans les synagogues autres où je ne connais personne, où je ne suis pas connu, etc., etc., pour avoir de l'aide. Donc, c'était déjà un problème pour la société juive, ça l'est d'autant plus dans le cadre de l'Église. Il est notoire, en tout cas, pour ceux de la société juive, que l'Église naissante, enfin ce mouvement messianique, pratique la charité à grande échelle. Ça a sans doute attiré beaucoup de juifs, dont les veuves du milieu hellénique, qui ne trouvaient déjà pas toute l'aide escomptée dans la société juive, et qui se dit « mais là, il y a un mouvement dynamique, il y a une véritable entraide, il y a un véritable amour, ça m'intéresse, moi je vais plutôt aller là ». Ainsi, ce fameux problème qui était un problème urbain à Jérusalem, problème social, est devenu le problème de l'Église. En tout cas pour les structures de l'Église. Ce que le judaïsme de Jérusalem n'arrivait pas à résoudre devient le challenge de la communauté naissante. Donc c'est pas rien, quoi. Et on peut imaginer, donc, que c'est avec le temps qui s'écoule, et à l'usage, finalement, que l'Église de Jérusalem va prendre conscience de la difficulté d'approvisionner tous les pauvres, dont ses veuves de l'étranger.
Tu peux dire avec les synagogues, j'ai pas trop bien saisi.
Donc,
vu les hellénistes, les juifs hellénistes qui venaient, il fallait des synagogues grecques.
En tout cas, parlant grec, etc. Et le résultat, c'est que les juifs de la diaspora se retrouvaient souvent, d'ailleurs, comme on le voit dans le verset 9, souvent cantonnés par origine géographique. Hein, Libye, Égypte, etc., ils se reconnaissaient entre eux.
Mais ça avait un impact par rapport au problème des veuves, c'est ça que je...
Oui, déjà dans
c'est
la société juive. Donc, trop peu, si tu veux, puisque tu dois compter sur tes pères, sur ceux qui font partie de ta communauté, notamment d'origine, le nombre de synagogues où, vivent des Juifs de l'étranger étant trop peu nombreux, on n'arrive pas à subvenir aux besoins des gens, des pauvres. Et ce qui laisse quand même sous-entendre que dans la société juive, il doit y avoir une petite disparité entre hébreux et hellénistes. Et on ne parle pas de l'Église ici, on parle de la société telle qu'elle est. Donc il y a déjà des clivages qui existent du fait de ne pas être natif de Palestine. Et ce problème, l'Église va en hériter, tout simplement. Mais sans avoir prévu que ça arriverait. En tout cas, pas à ce point. D'où l'idée du murmure. Hein. Or, ce que nous devons bien comprendre, par contre, par rapport à l'Église, c'est que l'entraide que nous avons vue dans les chapitres précédents, les dons, etc., les ventes de patrimoine, les aumônes, enfin bref, tout ce système, cette entraide reposait uniquement sur le groupe des Hébreux. C'est-à-dire qu'à l'origine, c'est eux qui ont commencé ce travail. Et ils étaient, d'ailleurs, c'est parce qu'ils étaient majoritaires, tout simplement. Et puis, ils n'avaient pas prévu que dans le groupe des hellénistes, un certain nombre d'entre eux allaient tomber dans le même mouvement qu'eux, donc dans cette église naissante. Donc, il se trouve que les Hébreux gèrent pour l'instant. Ils se connaissent bien, puisqu'ils sont natifs de Palestine ou de Jérusalem. Ils ont des liens linguistiques, ils parlent araméen couramment, et ils ont des liens familiaux. C'est-à-dire qu'on habite, hein, on est tous cousins, quoi, voilà, en Palestine, hein, en gros. On peut avoir des cousins à Bethléem, à Nazareth, à Jérusalem, etc. Donc c'est une grande famille. Mais si tu arrives de la diaspora, la grande famille, elle n'est plus vraiment là. Ou en tout cas, elle est trop éloignée de toi que pour être considérée comme. Et donc, tu dois te débrouiller d'une certaine manière. Alors, ils se connaissent donc bien, et cela favorise, j'allais presque dire naturellement, leur propre veuve au détriment de celle des Juifs de l'étranger. Donc, cette bonne connaissance du tissu social et linguistique de Jérusalem fait que les veuves hellénistes, si vous voulez, sont moins prises en compte. Et encore une fois, il ne s'agit pas vraiment d'une discrimination, mais plutôt d'une faute non intentionnelle de ne pas avoir accordé d'importance, si vous voulez, à ces veuves dont on pense qu'elles devraient dépendre du système hellénique d'entraide, mais il n'y en a pas. Alors les responsables sont en défaut pour ne pas avoir accordé assez d'attention à cette problématique, d'où le fameux murmure dont on nous parle. Ça va jusque-là. Donc là, voilà un peu dressé le tableau qui explique le problème naissant dans cette communauté qui n'avait pas prévu que ceci arriverait. Et alors, moi, je suis très étonné par le verset 2. C'est-à-dire, je découvre avec quelle promptitude les 12 ont enrayé le problème. Les décisions qu'ils ont prises sont très, très intéressantes. Donc, verset 2, hein, on dit que les 12 convoquèrent l'assemblée plénière. Alors, en grec, il n'y a pas d'assemblée plénière. Ils convoquent la foule des disciples, dit le texte, en gros. Voilà. Pardon ? La multitude, exactement. Multitude ou foule, oui, c'est ça. Et donc, ces apôtres réagissent, ils font face immédiatement au problème de la difficulté de l'entraide. Et vous savez que d'habitude, dans la vie sociale, quand on a le pouvoir, on réprime plutôt les minorités. C'est-à-dire que l'habitude, c'est taisez-vous, de toute façon, vous êtes des étrangers. On les réprime autant dans leurs attentes que dans leurs revendications. Et on en a des exemples multiples dans l'histoire, même dans nos pays européens, où les minorités ne sont pas considérées jusqu'à preuve du contraire.
On disait Titio aux Italiens. Spaghetti ou...
Oui, exactement. Alors, on peut donc souligner déjà la belle différence qui existe entre le comportement des autorités religieuses du pays et l'autorité des apôtres, qui, eux, s'intéressent à la minorité, ne veulent surtout pas qu'on puisse... Oui, qu'on puisse les montrés du doigt comme délaissant une partie des gens qui suivent leur mouvement. Ça n'aurait eu aucun sens pour eux. Donc il convoque la foule des disciples, c'est-à-dire l'ensemble de l'église de Jérusalem, au complet. Alors, on suppose qu'il y a beaucoup d'hommes et très peu de femmes dans ce genre d'assemblée, mais c'est en tout cas une sorte d'assemblée générale, si vous voulez, devant laquelle on dit, ben voilà, il faut qu'on résolve ce problème une bonne fois pour toutes, et qu'il ne demeure pas. Et c'est ainsi qu'on découvre dans la suite du texte, dans l'argumentaire des apôtres, il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour le service des tables. Et donc ici, ce fameux service des tables nous aide à mieux comprendre quelle était l'entraide quotidienne et pourquoi elle devait être quotidienne. Parce que chaque jour, il fallait nourrir. Donc non seulement financer, parce qu'on donnait aussi de l'argent, mais surtout donner à chacun une ration alimentaire suffisante pour la journée. Notamment, je parle des pauvres, je ne parle pas de toute l'Église, évidemment.
C'était le reste du cœur de l'Église.
Voilà, exactement. Exactement. Service aux tables. Et je rappelle qu'en grec, service, c'est le mot diakonei, ici, dans le texte. Ouais. Ça veut dire qu'il a donné le mot diaconie, diaconat, diacre, diaconesse, etc. Mm-hmm. Donc, un vrai ministère d'entraide alimentaire était organisé au jour le jour à Jérusalem. Et les apôtres disent, mais nous, on a d'autres priorités. On ne va quand même pas s'occuper de régler le problème de l'entraide alimentaire. Il faut que nous nous en déchargions, c'est ce qu'ils disent finalement à l'Assemblée. Nous, on souhaite en être totalement déchargés, et nous vous confions, toute l'Église, la charge, la mission de trouver, de chercher, dit le texte, les hommes habilités à le faire.
On avait vu au début qu'on venait déposer de l'argent au pied des apôtres.
Oui.
Mais comme Anne-Marie a dit, comme le nombre augmentait, les apôtres, eux, ils n'ont pas augmenté en nombre.
Non.
Et si pendant tout un temps, on peut imaginer, ils géraient l'argent.
Ils géraient sans doute.
Et puis à un moment donné, ils se sont dit, ben stop, nous, on n'y arrivera plus. Quoi.
Donc manifestement, en plus, entre les premiers chapitres, on a vu qu'ils étaient à l'œuvre. Il y a un groupe parmi les Hébreux qui a pris le relais et qui gère l'entraide au quotidien. Et nous, on va découvrir dans la suite du texte que ça ne fonctionnait pas trop à cause des veuves hellénistes et qu'il faut trouver une solution. D'accord ?
Et là, ils rappellent bien leur mission.
Donc,
c'est ça que je veux dire. Ils sont bien concentrés sur leur mission de la parole.
Donc, eux veulent se... Effectivement. Eux veulent se réserver la ministère... Alors, prière, c'est la prière publique, liturgique, etc., celle qu'ils faisaient en public sur l'esplanade du temple ou au temple, et puis continuent à prêcher Jésus-Christ. Et s'ils s'occupent d'autre chose, ils ne pourront jamais faire tout ça, surtout pas avec le nombre croissant de disciples. Hein. Ok. Donc ils leur disent, ben, débrouillez-vous, mais cherchez sept hommes, alors hommes au sens masculin, puisque c'est andras en grec, hein. Sept hommes... Avec quelles qualifications ? Et on pourrait s'attendre à ce que ce soit des gens organisés,
oui,
compétents,
capables
de faire, capables de faire la vaisselle. Voilà.
Et
oui. Ça, c'est quand même une sacrée découverte que l'Église primitive pense que pour tout service dans l'Église, il faut une part de spirituel. Donc on ne peut pas bien gérer le matériel si on n'est pas spirituel. C'est ça que dit le texte, en fait, hein, derrière l'histoire. Moi, je trouve ça absolument intéressant, parce que même nous, dans l'Église, nous ne sommes pas comme ça. Bien souvent, nous nous trompons. Nous nommons des gens à cause des compétences techniques et nous oublions la part spirituelle. Et parfois même, on va plus loin, parce que même théologiquement, on dit les diacres sont moins spirituels que les anciens.
Oui,
mais ça ne tient pas la route dans l'Église primitive. Ce n'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, dans la fameuse liste que nous allons aborder, on découvre qu'il y en a déjà deux qui prêchent. Ils prêchaient et ils vont continuer à prêcher, malgré cette nouvelle mission. D'accord ? Donc, bon, ils étaient plutôt évangélistes, si vous voulez. Je parle d'Étienne et de Philippe, bien entendu. Donc ces deux-là ont déjà un travail quasi missionnaire, si vous voulez. Et on leur adjoint donc en plus une tâche d'entraide sociale, d'entraide alimentaire, ce qu'ils vont manifestement accepter, quoi. Alors, je trouve aussi que la stratégie des apôtres est très, très intéressante, puisqu'en fait, ils demandent à l'Église elle-même de chercher les personnes qu'ils vont reconnaître comme diacres, tout ça afin de susciter la confiance dans ces diacres-là, déjà, surtout après l'histoire de la fameuse négligence, involontaire, bien entendu. Et alors, on peut... Alors, les commentaires, là, vont bon train, les amis. Pourquoi cet homme, etc. Enfin, bon. Du style, alors, c'est même très tiré par les cheveux, parce qu'on va dire, oui, mais dans le judaïsme, souvent, le pouvoir des villes est confié à cet homme. Ah bon, d'accord. Il faudra encore le prouver quelque part. Ou bien on nous dit, ah oui, il y avait 7 quartiers à Jérusalem à l'époque. Perso, j'en doute très fort. Hein. Voilà. Bon, donc, c'est pas avéré, ni historiquement, ni bibliquement parlant. Alors, il y en a d'autres qui ajoutent quoi
On aime bien le chiffre parfait.
Ça, à la rigueur, pourquoi pas ?
On pourrait le penser. Oui.
C'est à peu près la seule chose qu'on pourrait accepter, un chiffre un petit peu sacré, parfait, qui marque la bonne organisation, etc.
Pourrait-on dire spirituel. Que c'est peut-être aussi en liaison avec la quantité de personnes murmurant ayant un problème, et qu'il en fallait peut-être 7 pour faire le...
En tout cas, manifestement, les apôtres avaient fixé cela.
Si il y a 1000 personnes et qu'on n'en prend qu'un, le pauvre, il sera vite surchargé.
Moi, j'ai lu aussi que c'était en rapport avec 7 magistrats qui avaient la charge des pauvres chez les Juifs. Chez les Juifs de la diaspora, donc. Et donc, on a continué à prendre 7, parce que déjà, dans la diaspora, il y avait
7 magistrats.
Bah, de toute façon, c'est vrai que il y a beaucoup de possibilités d'utiliser des chiffres, en fait. Hein. Alors, 7 ici, en l'occurrence. Mais je sais, par exemple, que pour la prière, les groupes de prière, il faut au moins être 10. On ne peut pas faire la prière si on n'est pas 10, par exemple. Enfin, tu peux prier tout seul, mais si tu pries en groupe, il faut au moins être 10. Bon, enfin bref, il y avait toutes des petites règles comme ça dans le judaïsme. Donc pourquoi pas, effectivement, 7 personnes qui auraient joué un rôle particulier dans la diaspora. En tout cas, bibliquement, on ne trouve pas dans le texte ou généralement dans la Bible une explication valable au fait qu'il fallait cet homme. Et peut-être que ce que tu dis, Bernard, n'est pas faux, que vu le vrai problème et le nombre de veuves du côté helléniste, il fallait peut-être un certain nombre d'hommes pour parvenir à gérer cette histoire. Donc, en définitive, l'Église, donc l'Assemblée, si vous voulez, choisit effectivement 7 personnes. Et on nous en dresse une liste, enfin Luc en tout cas, nous dresse la liste de ces personnes. Qu'en avez-vous pensé ?
Du nom de personnes ?
Oui,
ça, ouais.
Par exemple.
Ce que j'ai lu quelque part, c'est que c'était tous des hellénistes, enfin tous des prénoms.
En tout cas, tous des prénoms grecs, déjà.
Grecs,
ouais. Ok. Quoi d'autre ? Bon, y en a, dans la liste, il y en a 5 qu'on ne connaîtra jamais, quoi. On n'en parlera plus jamais. Ceux dont on sait l'histoire, c'est Étienne et Philippe, en gros. Hein.
Sauf sur les caravanes.
Les caravanes, quoi ?
Timon. Excusez-moi.
Hein. Ben, moi, je suis choqué. Enfin, je suis le seul, apparemment. Pourquoi que des hommes ?
Ah, parce qu'à l'époque, c'était comme ça.
C'est s'occuper des femmes.
C'est ce que j'ai dit au passé aussi.
Tu vois, en
oui, mais pas
pour
que.
S'occuper des femmes. Pour
il fallait régler ce problème des veuves, mais il ne s'occupait pas que des femmes. Hein, ah, puisque
oui,
sont compris tous les pauvres.
Oui, mais là.
Est-ce que c'est pour organiser
le problème, c'était les veuves. Donc, il n'y a pas une seule femme.
À l'époque, ça ne se fait pas.
C'est pas dit qu'il n'avait pas d'aide, hein.
En tout cas, on pourrait considérer ces sept hommes comme sept gestionnaires. Plutôt voir ça comme ça.
Comme
sept gestionnaires de l'entraide. Après, ils s'équipent et puis ils ne sont pas tout seuls à le faire, évidemment. D'autant qu'il y a déjà un groupe qui était en action. Donc, vos constats, c'est... Vos constats, c'est sept hommes masculins, deux qu'on connaît bien, ou qu'on connaîtra bien, cinq autres qu'on... Voilà, on les cite là, mais on ne les reverra plus jamais.
Il y a ces élites-là, que ça n'existait pas chez les Juifs, hein, ça.
Si, justement.
Oui.
Bah oui, oui. Donc,
parce que je cherche, moi, que je ne connais rien de tout ça, et il mettait que dans la communauté juive, on n'admettait pas.
Justement, Nicolas, donc le dernier, on nous dit, même son origine, il est prosélyte d'Antioche, sous-entendu de Syrie, Antioche de Syrie. C'est donc, en fait, au départ, un païen. Un païen qui est converti au judaïsme. Donc, la communauté juive acceptait, à la condition de pratiquer la circoncision et tout le cheminement vers le judaïsme, et puis le culte, et puis tout ça, enfin bon, tout respecter, le Shabbat, absolument comme un juif. À ce moment-là, tu pouvais être accepté dans la communauté juive et exercer même des fonctions, et ça ne posait aucun problème. Ici, on a donc affaire à un doublement converti. Donc, un converti d'origine païenne converti au judaïsme qui lui-même se convertit à la voie messianique. Enfin, converti dans le vrai... Pas dans le sens de changement de religion, mais en tout cas d'aboutissement. Il rentre donc comme un adepte de la nouvelle voie. Et dans cette nouvelle voie, il est connu puisqu'il est élu. Donc déjà, c'était quelqu'un qui avait une certaine notoriété. Rappelez-vous les conditions, bon témoignage et tout ça. Quelqu'un qui était depuis la Pentecôte, bien dans le jus, qui était connu pour son activisme, son activité dans l'Église, etc. Et qui est donc désigné. Moi, je trouve ça aussi fabuleux, que l'Église naissante choisisse sept personnes de nom grec, dont un d'origine païenne. Ça, il faut quand même le faire. Hein. Donc, c'est intéressant. Ça vaut le détour. Alors, vous avez observé à juste titre que ce sont des noms grecs. Et il est probable que l'Assemblée a préféré nommer des hellénistes afin de s'assurer qu'il y a un vrai changement et qu'il n'y ait plus de plaintes à l'avenir. On peut en déduire cela. Ceci étant, on ne doit pas perdre de vue, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, que beaucoup de juifs portent deux noms, un nom araméen, hébraïsant si vous voulez, et un nom grec, parfois parce qu'ils sont eux-mêmes issus de parents de la diaspora. Et donc ils avaient deux prénoms. Donc on peut en tout cas dire que certains sont peut-être des Hébreux dans cette liste, peut-être une minorité. Je pense quand même qu'il faut pencher sur l'idée d'une majorité dans ce groupe de gens qui représentent le groupe des hellénistes, pour justement mettre un terme à la problématique. Mais on ne peut pas évacuer le fait que peut-être parmi eux, deux ou trois sont quand même des Hébreux natifs de Palestine, parlant grec, ayant un prénom grec, etc. Pourquoi pas ? Alors, je pense que le fait que Luc mentionne chacun des noms n'est pas, encore une fois, de l'ordre du détail. Il y a une intention, chez Luc en tout cas. Il mentionne ces noms pour signifier clairement l'attention que l'Église porte à la résolution du problème des veuves de ce fameux groupe des hellénistes. Alors après, on peut se poser des questions. Je vais la poser. Un des éléments peut-être difficiles à cerner, c'est est-ce que ces hommes ont été élus pour gérer l'ensemble de la diaconie de l'Église ou seulement pour ce qui concernait les hellénistes? Moi, je penche pour la première hypothèse, c'est-à-dire ils ont repris la main sur ce que les Hébreux faisaient avant eux au sujet de l'entraide, de telle manière que la minorité est en charge de ce qui touche à l'ensemble de la voie messianique. Donc c'est la minorité qui est reconnu par l'Église, pas par les apôtres. Hein. C'est pas du la promotion au canapé, je veux dire. Hein. C'est vraiment la base qui a choisi qu'un groupe minoritaire gère l'entièreté de l'entraide sociale à Jérusalem pour la raison simple de l'équité. C'est-à-dire, au moins, ils seront équitables et leurs veuves ne seront plus jamais délaissées ou négligées, etc. Alors, l'étape suivante, c'est qu'une fois que l'Église a élu ces sept personnes, on nous dit au verset 6 qu'on les présenta aux apôtres. Alors, bien sûr, c'est pas bonjour, c'est monsieur un tel, non, c'est pas une question de présentation sociale. Mais simplement, voilà le résultat de notre choix. Ouais. Ce sont ces sept-là que nous avons choisis. Est-ce que vous êtes OK avec nous? Parce qu'en fait, oui, l'Église a choisi, l'Église a élu, mais en même temps, les apôtres ont leur mot à dire. Et les apôtres auraient pu dire, ah ben non, pas celui-là, ou pas ceux-là, ou pas des hellénistes, enfin bon, peu importe. Mais donc, les apôtres ont une mission de ratification de la décision de l'Église. Non seulement cela, c'est pas simplement juste « bon, ok, on est d'accord avec vous », c'est aussi l'idée de missionner officiellement ces sept personnes. Et donc il y a une prière qui est prononcée, dit le texte, sans doute de forme un peu liturgique, et la fameuse imposition des mains dont je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Parce que nous, quand on parle d'imposition des mains, on parle souvent de bénédiction, voire de prière pour les malades, etc.
Est-ce que ce n'est pas dans le sens d'attester?
Oui.
À l'époque, tout vote, entre guillemets, c'était la main levée avec le doigt pointé. C'est pas ça? C'est pas dans ce sens-là? Pour montrer, oui, nous avons choisi ces personnes, nous les reconnaissons.
Ok. Il y a peut-être une part de ça. Et en fait, c'est un geste qui est terriblement biblique, hein. Donc, imposition des mains qui ressemble à une sorte d'ordination, pour reprendre un autre terme que celui que tu as prononcé. Et on trouve cela... Alors, il y a différents... Entre autres, donc, il y a différentes raisons pour lesquelles on puisse imposer les mains, notamment dans le Nouveau Testament. Donc, soit la transmission d'une bénédiction, soit la prière pour les malades, soit ce que tu viens de dire. Donc, quelque part, par exemple, quand tu recevais l'Esprit Saint, eh bien souvent... Il y avait imposition des mains, d'ailleurs on le verra dans les actes quelques fois, ça. Donc c'est vrai que l'imposition des mains est assez courante, mais ici, il s'agit d'une charge, il s'agit d'une mission qui est confiée officiellement au nom de tous à sept personnes. On pourrait donc comparer ça à une ordination, et on retrouve ça dans de très anciens textes, comme dans Nombre 27, par exemple, et je pense que ça s'inspire assez bien de ça, l'imposition des mains dans ce cas-ci. C'est quand, Nombre 27, au verset 18 et 23, on découvre la remise de la charge de Moïse à Josué. Et pour lui remettre sa charge et ses compétences, ses dons, etc., eh bien, il impose les mains à Josué. Donc on est un peu en face de ce même genre d'imposition des mains qui vise la transmission d'une charge ou de dons spécifiques liés à cette charge pour que le groupe soit officiellement confirmé dans ce travail. Et c'est les apôtres qui font cela, évidemment.
Nombre 27.
Nombre 27, verset 18 et 23.
Ah, et
23. Oui, on peut lire tout, hein, mais...
C'est un peu aussi comme une sorte d'officialiser une chose qu'un groupe a désignée.
Voilà.
Que pour que tout le monde soit au
courant. Ratification officielle.
Ratification, oui, c'est ça.
Hein? Tout à fait. Ça. Et en même temps, ça veut dire que tout le monde, Église de base et apôtres, reconnaissent dans ces sept hommes ceux qui peuvent accéder à la résolution du problème, une bonne fois pour toutes.
Et c'est un peu un geste, je ne vais pas dire divin, mais un geste...
Il y a une part de spirituel derrière.
Voilà, c'est ça, c'est dire, hein, et qui est transmise chaque fois.
Une mission divine.
D'autant qu'on a vu que dans les conditions liées au choix de ces personnes, il fallait une grande part de spiritualité. Bon témoignage et esprit saint.
Plein d'esprit saint.
Et de sagesse. Bon, quand même, c'est pas rien, quoi. Ok. Donc, je sais pas quelle heure il est.
Oui, tout le temps.
Les temps, c'est bien.
Tu mets la lumière. Attention, ça va chauffer.
Ah oui. C'est pas mal, ça, oui.
Parce qu'avec...
Alors, on est quasi à la fin du texte. Il reste un verset qui paraît très simple, qu'il est peut-être un peu moins. Alors, bon, on a la... dans ce verset un condensé. Encore une fois, une sorte de résumé temporel, si vous voulez. D'ailleurs, on a eu l'introduction en ces jours-là, et à la fin, on a de nouveau, on retrouve de nouveau la notion de durée. Hein, parce que pour que la parole croisse et qu'augmente le nombre de disciples, il a fallu de nouveau un certain nombre d'éléments, de prédications. De... C'est un peu comme si on y disait, mais voilà, maintenant qu'on a trouvé comment résoudre le problème, qu'on a confié la charge à un certain nombre de personnes... les apôtres ont pu se consacrer au ministère de la parole et tout recommence comme avant. C'est-à-dire, il n'y a plus de récrimination possible et en même temps, il y a croissance. Moi, j'aime bien l'idée qui se trouve derrière le texte grec que c'est la parole de Dieu qui augmente. J'aime bien cette idée. Parce que je ne sais pas trop ce qu'on a dans nos traductions. La parole de Dieu croissait. Oui, ça
se répandait.
La tobe est assez respectueuse du grec. Ok. Donc il y a l'idée quand même que la parole de Dieu est enseignée encore plus qu'avant grâce à cette réorganisation. Ce qui est quand même intéressant quelque part. Et du coup, c'est ainsi qu'on a la deuxième partie de la phrase qui nous dit « Et le nombre des disciples augmentait considérablement. » Donc au fond, parce qu'il y a cette prédication... en croissance, on a aussi une croissance numérique de nouveau des disciples. Jusque-là, on se dit, ok, c'est pas mal, quoi. Hein? Donc, on perçoit qu'il y a un développement de plus en plus rapide de l'Église à Jérusalem. Loin de freiner cette espèce d'histoire, cette affaire des veuves hellénistes, loin de freiner... la propagation de l'Évangile n'a fait que décupler de nouveau cela. Et ce qui aurait pu devenir un conflit majeur est devenu une source de bénédiction et de croissance, en tout cas localement.
Oui, c'est un bon témoignage.
Exactement. Je pense que le fait que les veuves hellénistes aient été pris en compte a marqué l'ensemble de l'Église. Mais pas que l'Église. Parce qu'ils sont observés, c'est toujours le même problème. Et donc le peuple aux alentours, qui est déjà favorable à la nouvelle voie, voit plutôt ça d'un bon œil, qu'on arrive même à résoudre des problèmes que la société juive n'a pas su résoudre avant. Il y a quand même quelque chose d'assez fabuleux, quelque part, quoi. En tout cas de remarquable, pour ne pas dire autre chose. Donc, cette mise en place des sept diacres a complètement déchargé les apôtres qui se sont attelés à la prédication. On observera aussi que les diacres eux-mêmes ne sont pas privés du droit de prêcher. Donc, ce n'est pas les apôtres qui ont confisqué la parole pour eux tout seuls, en disant, mais non, vous vous occupez que des tâches matérielles. Pas du tout. Donc, on a vraiment le cas d'Étienne, et on en reparlera plusieurs fois, à mon avis, dans les semaines qui viennent, et le cas de Philippe, qu'on abordera aussi plus tard, qui sont deux cas un peu hors normes parmi ces sept, parmi les diacres, en tout cas. C'est sans compter le nombre croissant de disciples, parce que quand même, il faut qu'on observe tous ensemble que plus un groupe grandit, plus il y a un effet boule de neige. Donc nécessairement, la foule attire la foule. Les disciples parlent, les disciples communiquent, les disciples témoignent, etc. Et donc de plus en plus de gens sont attirés par cette communauté. Et comme je vous l'avais fait toucher du doigt la fois dernière, on découvre ici que parmi ceux qui se tournent vers la nouvelle voie, alors c'est pas rien, une multitude, dit le texte, une multitude de prêtres obéissaient à la foi. Et là, il faut qu'on se penche quelques minutes là-dessus, parce que peut-être qu'on peut être dérouté par cette information, dans le sens que j'ai souvent insisté sur... les Sadducéens, les grands prêtres, ceux qui tiennent le haut du pavé à Jérusalem, qui sont complètement contre la nouvelle voie, on l'a vu plusieurs fois dans nos explications. Alors, qui sont ces prêtres? Comme je vous l'ai dit aussi la dernière fois, il y en a des milliers à Jérusalem. C'est pas juste une petite dizaine, une petite centaine, non, c'est des milliers qui sont là pour le service au temple. Alors, il faut savoir qu'ils sont là pour quelques semaines, peut-être 2 mois. Ils sont là à Jérusalem. Ils y vivent. Mais ils ne sont pas de Jérusalem. Donc, ils repartent les autres mois de l'année. Ils sont dans leur tribu d'origine. Enfin, géographiquement, dans la tribu qu'on leur a attribuée pour être lévites. D'accord ? Donc, ce sont de ceux-là dont il s'agit parmi les convertis. Une multitude n'est donc pas un terme exagéré. S'ils sont quelques milliers, voilà, on peut parler... Parmi ces milliers, sans doute un petit millier qui se tourne vers la nouvelle voie. En tout cas, c'est une mention importante parce que ça nous montre le succès de l'Évangile, puisqu'il touche même la classe sacerdotale, celle qui tente de se protéger contre la nouvelle voie. Mais ce que nous devons bien comprendre, c'est que ces petits prêtres du bas de l'échelle ne sont pas des sadducéens. Ils sont aux ordres des sadducéens, mais ils ne sont pas sadducéens. Et voire même, plus compliqué que ça, parmi les prêtres, il y a des pharisiens qui, eux, sont déjà beaucoup plus ouverts à la nouvelle voie messianique. Donc, parmi ces prêtres, généralement d'une classe insignifiante, basse classe, hein, le bas de l'échelle, aucun d'eux n'est réellement sadducéen. Ils sont là, quelques semaines par an à Jérusalem, et ils sont donc nettement moins sous influence des grands prêtres. Ils ne les croisent que quelques semaines par an, et ils n'en ont rien à cirer, parce que comme tout juif, ils ont bien compris qui c'était, c'est-à-dire des politicos quelque chose, mais en tout cas pas des vrais grands prêtres, hein, d'accord ? Au sens spirituel du terme, au sens de l'Ancien Testament, au sens de la Torah. Donc pour eux... se tourner vers la nouvelle voie n'est pas un problème. Ils ne sont déjà pas fidèles, loyaux aux grands prêtres. Ils sont loyaux au temple et à la loi, mais pas à ce que font les grands prêtres.
Les grands prêtres ne font pas leur boulot non plus. Alors.
Ah ben non, eux ils gèrent surtout le pognon et la vie politique d'Israël. Et la justice, si tu veux. Ouais. La fausse justice, on l'a déjà vu. Donc, on peut mieux comprendre pourquoi une multitude de prêtres se tournent vers cette nouvelle voie, puisqu'ils ne se sentent pas sous influence et qu'ils n'ont pas à respecter spécialement la classe des grands prêtres. Ils font leur service, ils accomplissent leur service au temple tout à fait normalement. Même s'ils appartiennent à la nouvelle voie, ils vont continuer à offrir les sacrifices, et etc., etc. On va d'ailleurs découvrir que peut-être... que la conversion de ces prêtres, c'est ce qui va entraîner la chute d'Étienne. Parce que nécessairement, dans le discours d'Étienne qu'on n'a pas encore étudié, on va découvrir comment Étienne voit le nouveau judaïsme. Et dans le nouveau judaïsme, les prêtres n'ont plus trop droit au chapitre. C'est-à-dire l'idée de sacrifice et tout ça tombe à l'eau. Finalement, on dit que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a donné une vision nouvelle, Jésus comme grand prêtre, l'agneau, etc. Mais en fait, Étienne a devancé et Paul et l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Donc Étienne a été un précurseur d'un enseignement révolutionnaire, non pas il faut fermer le temple, mais il faut adorer autrement, et notamment en supprimant les sacrifices, etc. Donc on peut peut-être comprendre que finalement la conversion de tous ces prêtres va entraîner un problème théologique important, qui est peut-être né de leur propre obéissance à la foi, comme dit le texte. Donc ces prêtres découvrent en Yeshua celui qui est le véritable agneau pascal. Pourquoi alors continuer le système cultuel au temple? Voilà, un petit peu pour vous mettre en bouche par rapport à l'histoire d'Étienne. Hein. La prochaine fois, donc, on essaiera d'aborder des applications pratiques par rapport à cette péricope. Et la prochaine section devrait être sans doute les versets 8 à 15. J'ai pas trouvé d'idée géniale comme titre, mais Étienne, son ministère, son arrestation, puisque c'est de ça qu'il va s'agir dans la prochaine péricope. Donc on verra que très rapidement après la charge des diacres et la conversion des prêtres, on a un vrai problème d'opposition alors très virulente contre la nouvelle voie et particulièrement contre Étienne qui enseigne des choses qui ne conviennent pas du tout au temple, enfin au Sadducéen en tout cas. Voilà. Ok, y a-t-il une question en suspens? Quelque chose de pas clair? Bon, je prétends pas avoir tout clair dans ma tête parce que c'est vrai qu'aujourd'hui j'étais pas dans mon assiette spécialement. Mais j'ai essayé de tenir.
J'ai la Bible annotée de Maïs, qui est un livre très intéressant pour étudier la Bible, mais tu as encore plus d'informations que la Bible annotée.
Oui, mais j'ai appris. Dans beaucoup de commentaires, tu trouves des choses intéressantes. D'ailleurs, on peut avoir plusieurs outils et se rendre compte que les outils se complètent très très fort. Parfois, ils disent les mêmes choses, mais parfois, une information supplémentaire. Et notamment, ce qui nous manque, nous, c'est vraiment le contexte historique et culturel.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Pour bien comprendre. Oui, ça. Cette histoire de deux groupes, par exemple, dans le texte, moi, ça ne m'avait jamais vraiment trop... plus jamais trop posé de questions. Quoi. Voilà, il y avait un groupe... parlant grec et les autres parlant hébreu, araméen en tout cas.
Et les affranchis.
Mais c'est pas la réalité. Après, quand tu grattes les choses, tu te rends compte que le grec était une langue couramment utilisée à Jérusalem, donc ça n'explique pas tout. C'est pas juste une histoire de langue ou une histoire d'origine géographique. Il y a plus que ça, quoi. Voilà, mais je pense en tout cas, ça peut nous aider à comprendre. Moi, ce qui me frappe très fort par rapport à cette péricope, c'est l'ingéniosité des apôtres, leur manière de gérer chaque difficulté qui se présente à eux, avec à la fois une grande sagesse, une grande autorité, de belles compétences et d'une manière très moderne, finalement.
Et l'humilité, demander l'aide des autres.
Et puis camper sur leur mission, tu vois. Ils ne se disent pas on va tout faire, on va tout gérer parce que nous on sait le faire. Non, ils délèguent et puis ils s'adonnent vraiment à la mission que le Seigneur leur a confiée.
Donc le groupe a bien choisi les sept.
Oui.
Mais bon, les apôtres, ils étaient remplis du Saint-Esprit aussi. Sagesse et ils avaient beaucoup de charges aussi. Et sans le Seigneur, sans le Saint-Esprit, c'est vraiment pas possible. Des fois, on en manque.
On y trouve aussi la première référence dans le Nouveau Testament de la délégation et de la responsabilisation de la communauté. Donc il n'y a pas que le sommet là, de la hiérarchie qui fait tout. C'est le corps, et le corps, on le verra dans de nombreux chapitres après, le corps prend souvent des décisions qui sont alors apportées aux apôtres et impliquées.
Même dans des situations plus graves,
ouais.
De conflits ouverts. L'Église a eu son mot à dire. Et ça, je pense qu'il faut vraiment qu'on s'en inspire, nous, enfin, en tant que communauté. Quand j'entends dans le milieu évangélique, par exemple, des communautés où on dit il ne faut surtout pas se plaindre, il ne faut pas accuser, etc. Et finalement, tu vois ici que la plainte du constat réel d'une injustice, donc quelque chose qui n'était pas acceptable, est remontée jusqu'aux apôtres et que ça a été un bienfait pour l'Église. Tu dis parfois, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Il faut aussi oser affronter les réalités comme elles sont.
Pas un simple conflit.
Voilà. Et même déjouer le conflit grâce à ça.
Et on cache.
On se revoit jeudi prochain.
Oui, normalement, oui.
Oui, oui, oui.
Ok, excellent. Que Dieu vous bénisse pendant cette semaine. Et puis, j'espère avoir le temps matériel de préparer la suite et de vous l'envoyer à temps.